Et à tous, merci de votre constance. Deux fois par semaine, c'est quand même... Vous l'avez dit. Bon, est-ce que malgré tout, et à cause de ça peut-être, vous avez des questions?
Frédéric Lenoir, il survole un peu.
Ah, quand même, ah ben oui, non, mais ça c'est tout à fait certain. À tel point, il y a tout à fait, il y a un art de dire des choses sans les dire et surtout de ne pas démontrer ce que vous avancez. Bon, par exemple, il y a quelques années, c'est son dernier. Comment dire. Sa dernière production, je crois, en tout cas, c'était tout un livre pour dire que la question de Jésus comme fils de Dieu était une affirmation extrêmement tardive du 4e siècle de notre ère. Bon. À tel point, et c'est ce qui était assez intéressant, c'était que ça prend. Parce qu'il a une belle plume. Non. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle bien qu'on dit quelque chose. Et encore moins qu'on dit quelque chose de sérieux. À tel point que, justement, il y a eu 16 Bouets, qui est donc théologien, disons, dans les 40 ans derniers, c'est un grand théologien français, qui a répondu, il a publié un livre pour lui répondre, contestant point par point et argumentant point par point. Et si j'ai bien su, c'était à la demande de 23, du cardinal 23, qui a vu les taux de vente de la production de Lenoir, etc., il a dit qu'il faut quand même faire quelque chose. Parce que... Et donc il a demandé à Cesbouet de faire quelque chose. Il a fait quelque chose de très, très parlant et clair, pas avec des arguments. Quoi. Enfin, et je vais parler tout à l'heure d'un autre auteur qui n'est pas français, mais qui est anglais, écossais, je crois. D'origine espagnole, probablement. En tout cas, il y a un nom espagnol, mais enfin, en tout cas, il est tout à fait anglais, qui, depuis 30 ans, travaillait cette question et a publié énormément de choses. Je vous donnerai un livre, par exemple, et pour lui, c'est les affirmations comme quoi les premiers chrétiens ont mis 3 siècles à affirmer que Jésus de Nazareth... mort et ressuscité, était considéré comme fils de Dieu, comme Dieu, quoi. C'est une évidence, mais une évidence qu'il faut démontrer. Il faut seulement...
Une évidence que quoi? Que ça a mis 3 siècles? Non.
Non. Le contraire. Que, justement, qu'il a été depuis les débuts, et que l'écriture que nous avons, dont le texte le plus récent date de l'an 100, mais à d'autres, Paul, par exemple... C'est quand même 50. Hein. Donc là, c'était tout à fait évident. Bref. Mais ça correspond aussi un peu à une des tendances qui me paraît en elle-même tout à fait légitime et à cultiver. C'est-à-dire à remettre les choses en question et avoir l'esprit critique. Donc effectivement... On peut se poser légitimement la question, et c'est pas maintenant que, et surtout c'est pas lui qui l'a posé réellement. Bon, cette croyance des chrétiens comme quoi Jésus est fils de Dieu, ou est Dieu, est-ce que c'est une production à un moment donné et bon, et là il y avait quand même, disons, des, des données contextuelles qui pouvaient faire croire ça, parce qu'effectivement, au IVe siècle, le christianisme devient une religion officielle. Les empereurs romains, ils étaient quand même, sinon pas tous divinisés, mais passablement, en tout cas. Et donc, disons, c'est une histoire qui est allée dans ce sens, mais c'est une histoire purement sociopolitique. Bref. Oui.
Comme vous dites, le prophète dénonce l'insupportable,
oui, et annonce l'inimaginable.
C'est une expression. Qui est l'auteur de cette expression ?
Qui a fait cette.
Voilà, ça me paraît très bien. Mais...
Cette formule qui est très très belle. Et, enfin,
ouais,
malheureusement.
On ne sait pas qui.
Si.
Ah,
c'est pas de moi. Parce que je la trouve tellement juste, tellement pertinente, que j'aurais été bien content. C'est un peu comme quand vous lisez un livre, vous trouvez génial, ah, voilà le livre que j'aurais dû... Bon, là, c'est pas... Bon, c'est d'une... En plus, c'est d'une femme.
En plus,
qui sera prof au CIF en deuxième année. Ce sera le dernier cours du CIF. C'est Elena Lassida. Elle fera les cours de théologie morale, la partie économique et politique. Moi, j'ai quelqu'un qui est très engagé, qui est même très connu, enfin, qui actuellement est en dehors d'être professeur à la faculté de sciences sociales et économie de la Cato, elle est chargée des missions à la conférence épiscopale des évêques de France, évidemment, à la commission famille et société, chargée donc des questions écologiques. Et là, elle est... Enfin, bref, c'est... Comment ?
Qui a écrit ce livre sur le dans le sens et il faut apostropher Dieu plutôt, ah oui, de l'un de on l'insulte si on veut crier, attendez,
c'est un allemand, hein, et là, ça n'a pas été traduit, quoi, c'est Thomas Kruger. Je crois que c'est lui, mais je l'ai chez moi, je pourrais même vous les prêter si vous voulez. C'est sur les psaumes des prières contre les ennemis et contre les et les lamentations, dans lesquelles effectivement on engueule Dieu copieusement.
Si c'est en allemand, merci.
C'est il est petit mais en allemand.
Petit, merci.
Oui. Bon. Alors, je résume rapidement ce qu'on avait commencé à dire la dernière fois. Je suis donc au parle en parabole. Je rappelle rapidement, la parabole, c'est un court récit, très simple, que tout le monde, tout l'auditoire peut comprendre sans aucun problème. C'est une comparaison, c'est une... ou un exemple, etc., comme ça. Et qu'après, c'est lui qui utilise la parabole, va l'appliquer, va faire un pont avec une situation qui n'est pas du tout celle dont parle la parabole. Mais, étant donné que l'auditeur n'a pu qu'être d'accord avec la conclusion de la première parabole, il ne peut qu'être d'accord avec les conséquences qu'il va tirer dans l'application. C'est un moyen pédagogique pour vous conduire là où vous ne voulez pas. Bon, et je ne sais pas si vous avez rappelé, comme parabole de l'Ancien Testament, l'histoire de David. David, vous savez, était très, très alerte pour tout ce qui était jupe. Et donc, à un moment, il avait donc piqué la femme de son chef des armées, mais en ayant soin d'éliminer le premier propriétaire, si l'on peut dire. Le prophète Nathan va le voir de la part de Dieu, bon, et il lui raconte cette histoire qui devient une parabole par son utilisation. Il lui dit, il y avait un type pauvre, simple, brave type qui avait une brebis. Et à côté, il y avait un Richard qui avait des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux. Quelqu'un vient rendre visite le riche et pour festoyer l'amitié, il pique la brebis du pauvre. Et alors, David, évidemment, quand il entend ça, il s'écrie, mais qui est ce salaud-là, qu'on me l'amène. Et c'est là qu'il a été pris par ça, par ces pièges. Il lui dit, ce salaud s'appelle David, c'est toi. Et il le reconnaît, il ne peut que reconnaître. Donc c'était le moyen de conduire l'auditoire là où, si vous faites un grand discours, ils vont pas suivre. Mais là, c'était le moyen donc technique, pédagogique extrêmement utile et connu. Nous avons des collections de paraboles des rabbins du temps de Jésus, par exemple. Il y en a plein, dont certaines qui sont similaires. Le problème de la parabole, ce n'est pas le récit en tant que tel. En tant que tel, c'est l'application qu'on en fait. Et vous avez par exemple la parabole de la brebis perdue, qui est présentée en Matthieu et en Luc, mais dans un contexte différent, et chacun tire une conclusion différente. Et c'est tout à fait légitime. On pourrait aussi tirer encore d'autres. La pertinence, c'est que la conclusion qu'on en tire soit, disons, déductible facilement de la petite histoire qu'on a racontée. Bon, ça c'est tout à fait... Bon, derrière toutes ces paraboles qui sont très très importantes, il y a, disons, Jésus se met en scène. Et vous avez des points de vue, je vous avais dit, la parabole de l'enfant prodigue. Et ça, c'est très bon parce que le chapitre 15 de Luc commence par dire « Les pharisiens et les docteurs de la loi, je sais quoi, critiquaient Jésus, disant, ce type-là, il va manger avec le collecteur d'impôts, regardez, gilet jaune, et avec les prostituées. Donc, ce type-là ne peut pas être quelqu'un qui vient de Dieu. Et l'autre ne répond pas, disant si, parce que. Non, il raconte la brebis perdue, la femme perdue et l'enfant prodigue. Pour dire écoutez, je ne fais que faire qu'on fait Dieu. Donc, par les paraboles, il se met lui aussi en scène et il se montre et il se dit. Comme on avait dit aussi, donc Jésus va non seulement parler avec des paraboles, il fait aussi des discours. Dans Matthieu, il y en a pas mal, il y en a 5 grands discours, les discours sur la montagne, les discours en paraboles, les discours ecclésiales, c'est-à-dire sur la vie de la communauté, les discours eschatologiques, bon, il y a 5 quand même. Hein. Et dans Jean, vous en avez des discours à ne plus finir. Mais Jésus parle autant en parole que par ce qu'il fait, nous aussi. On a beau dire ceci ou cela, mais ce que nous faisons parle aussi de nous et pour nous. Et c'est, comme on l'avait dit, la question, ce qu'on appelle les miracles. Les miracles, je rappelle en deux minutes, ce n'est pas les côtés merveilleux qui comptent. Et surtout, ce n'est pas, si vous voulez, le côté cirque, encore plus difficile. J'ai guéri quelqu'un qui est malade, maintenant vous allez voir, c'est encore plus dur, je vais ressusciter quelqu'un. Bon. C'est un peu ce qu'on fait dans le cirque. Hein? Non, ce n'est pas ça du tout. Il ne fait jamais ce qu'il fait, les guérisons, pour cultiver le merveilleux, pour épater la galerie. C'est qui, par exemple, se fait, ou se voit de façon très très nette, dans les évangiles apocryphes. Alors là, vous en avez du merveilleux, mais alors, à ne plus finir. Et probablement, ça a été un des critères pour ne pas les recevoir, ces apocryphes, parce que trop c'est trop, et là on voit qu'on cultive le merveilleux pour le merveilleux. Jésus, ce qu'il fait, c'est guérir et libérer. Il guérit de toutes les maladies possibles, etc. Sauf que, j'aurais remarqué quand même, qu'il ne guérit jamais, par exemple, quelqu'un qui a mal aux dents. Pourtant, c'est pas beau, hein. Les guérisons qui sont présentées dans l'Évangile sont toutes des guérisons qui ont quelque chose à voir avec la relation avec les autres. Par exemple, les lépreux qui étaient des exclus. Donc, par la guérison, il les inclut, on dirait maintenant, dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans la relation avec les autres. L'aveugle, par principe, il y a la relation avec les autres qui est considérablement diminuée. Les sourds, n'en parlons pas.
Paralytique.
Comment ?
Le paralytique.
Enfin, Le récit célèbre de la guérison de la belle-mère des pierres, qui est une sorte de schéma. Hein. C'est vraiment très très simple, très sobre. Mais le récit se termine. Une fois qu'elle est guérie, elle s'est mise à le servir. Autrement dit, dans le relationnel dont elle était, disons, coupée par sa fièvre ou par je ne sais pas quoi. Ça, c'est quand même très important. Et libérée, c'est-à-dire tous les exorcismes qu'actuellement on les comprend souvent, parce que les symptômes sont assez clairs, comme des problèmes psy. Nous en avons maintenant beaucoup, mais ce n'est pas nouveau. Et même s'il n'y avait pas des psy, ni des psychologues, ni des psychiatres, ni des psychanalystes, encore moins, Dieu merci. Bon, pardon. Il libère de tous les démons intérieurs ou extérieurs que nous avons. Les peurs, les ceci, les cela, les cela. Et encore une fois, c'est pour les remettre dans les circuits, si on veut dire. Pensez par exemple au célèbre, à la célèbre guérison de celui, le démoniaque qui habitait dans le tombe, dans le tombeau. Évidemment, là, c'est très clair. Hein. C'est l'impureté totale. Et bon, qui en plus, il dit, quel est ton nom ? Légion. Pourquoi ? Parce que nous sommes très nombreux. Bon. Bon, il est guéri, l'exorcise, etc. Et Jésus le renvoie chez lui. Et lui qui voulait suivre son bienfaiteur, etc., dit non, ne me suis pas, va plutôt chez toi et raconte là ce que Dieu a fait pour toi. Là, c'était le rétablissement dans la relation familiale de son village, etc. Donc, ça, c'est Jésus, ce qu'il fait, c'est guérir et libérer. Bon, et c'est vrai que souvent, comme on l'avait dit, les récits des miracles, où il y a une dose importante de merveilleux, c'est détourné par l'habitude, et parce qu'on tombe dans le piège du merveilleux, à tel point que je vous disais, même les traducteurs, et dans vos traductions, par exemple, les récits où Jésus donne à manger à la foule, même là maintenant, je crois, enfin, vous pouvez voir dans vos Bibles, on va donner un sous-titre qui est de l'éditeur, qui ne fait pas partie du texte source, il va mettre la multiplication de pain. Or, vous regardez le texte, il n'y a pas un seul mot dans le texte qui indique multiplier, multiplication, quoi que ce soit. Au contraire, dans Marc, Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Quand même pas la même chose. Et comment dire, la visée de ces textes, c'est que ils n'ont que deux poissons ou cinq poissons et deux pains, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est à partir de ce qu'ils donnent que les gens mangent. Même si c'est peu. Quand ils disent qu'il faudrait 200 pièces pour que chacun puisse avoir un petit... Non, donnez-leur vous-même. C'est... Enfin bref, ça c'est un des cas du détournement de sens de ces récits de merveille. Bon, Jésus annonce le vrai visage des dieux. Que ce soit par le récit, ou par le discours, ou par ce qu'il fait, Jésus se situe toujours par rapport au Père et aux hommes. On va dire que ce n'est pas une histoire de faire sa page Facebook, ni son profil. C'est toujours par rapport à Dieu et par rapport aux âmes. C'est-à-dire, il manifeste aux hommes, par ses paroles et par ses faits, le visage de Dieu. Comme je vous disais, par exemple, pour l'enfant prodigue. Moi, je ne fais que faire comme Dieu. Jésus se présente comme une sorte de passerelle, comme un pont, un intermédiaire, un médiateur, comme on a déjà dit. Ce soit dans les discours sur la montagne tels que nous les présente Matthieu, ou dans les paroles, effectivement, comme l'enfant prodigue chez Luc. Il s'agit de montrer aux âmes le vrai visage de Dieu, et par le geste, de montrer ces visages de Dieu en action. Donc il dit, et il fait, Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Le règne de Dieu, on dit là, la souveraineté des dieux par rapport à tout le reste, il les montre en action. En accueillant les exclus, les femmes, les malades, les impurs, comme les lépreux, en pardonnant les péchés et en libérant tous de toutes sortes de démons qu'ils ont et qui les rendent prisonniers. Ce faisant donc, Jésus montre Dieu en action. Il montre un Dieu de la vie, un Dieu amour qui aime et qui veut la miséricorde. Donc ça, c'est une constante absolument évidente. Bon. Paragraphe suivant. Jésus accomplit sa mission au prix de sa vie. Ça, évidemment, vous en aurez de quoi travailler beaucoup plus à fond au deuxième trimestre, dans les cours de Christologie. Mais quelques mots pour dissiper dans ce cadre quelques malentendus. Ce sont surtout les représentations concernant la mort de Jésus qui sont sujettes à caution. Bon, par exemple, une idée extrêmement répandue, Jésus est mort pour payer une dette que les hommes, à cause de leurs péchés, doivent à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu quel type de... quelle image de Dieu nous en avons là. Un Dieu qui est tellement courroucé, tellement furax, que il faut le calmer. Alors personne ne peut calmer parce que sa colère est tellement énorme que seulement son fils, en étant zigouillant sur une croix, peut calmer cette colère divine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous présentez ça aux catéchumènes, par exemple, aux gens qui veulent être chrétiens, s'ils sont normaux, ils diront « Merci beaucoup, au revoir, salut. » Un Dieu pareil, merci. C'est une image qui est devenue courante à partir du Moyen-Âge, mais pour une raison très simple. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y avait la société qui était divisée en seigneur et serfs. Et les logiciels des uns et des autres étaient que les seigneurs étaient, pour faire des guerres ou je ne sais pas quoi, les maîtres de leur terre et de leurs gens. Et donc, la vie du cerf, toute sa vie, consistait à payer par son travail, etc., etc., cette dette qu'il avait vis-à-vis du Seigneur. Bon, si ça leur a servi à cette époque, c'est représenter la mort de Jésus comme la rançon qu'il fallait payer pour ça. Mais là, maintenant, évidemment, ce n'est pas cette façon de voir les choses qui correspond. D'autant plus que dans les Nouveaux Testaments, bon, il y a quelques petites choses qui peuvent être, si on pousse, interprétées comme ça. Comment ?
Le terme de rachat.
Les termes de rachat, justement. Mais globalement, les Nouveaux Testaments n'ont pas de quoi organiser une explication ou une compréhension de la mort du Christ comme ça. Jésus est mort à cause d'un enchaînement historique bien connu, comme on le voit par exemple dans les récits de la Passion, avec ses variantes, avec les variantes, les uns les autres, etc. Mais la raison profonde, la raison théologique pour laquelle Jésus est mort, c'est qu'il a été fidèle à sa mission, qui consistait à montrer quelle était l'image de Dieu, et quel était le Dieu dont nous avions besoin. Et en montrant par ses paroles et par ses faits de quel Dieu s'agitait dans sa tête et dans sa vie, il a fini comme on sait.
Monsieur, mon père, pardon. C'est pas parce qu'il a chassé les marchands du temple plutôt.
Oui, j'y viens. Cette mission de Jésus voulait effectivement renouer la relation, ou nouer, comme vous voulez, ou nouer ou renouer la relation, une communion filiale entre les hommes et Dieu. Cette vision de la relation entre les hommes et Dieu, qu'il a présenté tout le temps, comme je vous disais tout à l'heure, alors, recevant tous les exclus, enfin avec tout son itinéraire, dérangeait profondément le pouvoir établi. Il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, et de manière plus particulière, le pouvoir sacerdotal. Ce qui a déclenché la Semaine Sainte, si l'on peut dire, ou son arrestation, ça a été justement l'expulsion des marchands du temple. Même si ça a été un petit truc objectivement sans grande importance, mais la symbolique de ces gestes était terrible. Ces gestes de Jésus a mis en cause et en péril les systèmes de vie des Juifs qui étaient orienté et centré autour du temple. Le temple était quand même le seul endroit dans l'Empire romain, en dehors de l'empereur, qui avait droit à frapper monnaie. C'est quand même pas une broutille. Le temple était la plus grande banque du pays. Le temple était un marchand, un rangisme et avec tous les bêtes pour les sacrifices, le blé, l'huile, le vin, enfin tout quoi. Enfin,
le marché,
mais tout vrai, un marché. Donc, alors, si vous mettez en cause ça, ceux qui en vivent et ceux qui en profitent, et, ils ne sont pas très contents. Comme généralement, c'est les gens qui ont un pouvoir, en plus que les prêtres du temple, etc., étaient main dans la main avec les Romains. C'est mieux comme ça. Il a mis en question les pouvoirs religieux et économiques des prêtres. Vous voulez qu'on dirait l'autre du système. Bien. Paragraphe suivant, qui est assez particulier, et là je vais utiliser à haute dose les apportations des Hurtados. Vous verrez, c'est ce que je vais dire là maintenant, par exemple, sur la présentation des dieux, etc., par les gestes et les paroles de Jésus, correspond à ce que nous dit le Nouveau Testament, qui, évidemment, le Nouveau Testament, et qu'on avait dit la dernière fois, c'est orienté dans le sens que tout ce qu'il dit, il est orienté ou vu avec les lunettes de l'expérience de la résurrection. C'est tout à fait certain. Mais les fondements de tout ce que dit le Nouveau Testament dans ce sens, ils ne sont pas en l'air. Il y a quand même des réalités qui, du point de vue historique, etc., peuvent être construites de façon très nette. Alors se pose une question importante qui, paradoxalement, a été très négligé pendant longtemps, très longtemps, et qui est revenu sur la table, ou sur scène, si vous voulez, il y a 25 ans à peu près, et c'est un de ceux qui a le plus travaillé ça, c'est cet auteur dont j'ai mis les noms au tableau. Quelle est l'image de Dieu qui se profile et se dégage des textes du Nouveau Testament? Et je cite un texte de Hurtado qui a été traduit en français en 2011, donc vous pouvez le lire si vous voulez, vérifier les tout. Vous verrez dans le... Vous l'avez eu déjà, je crois. C'est Dieu dans la théologie du Nouveau Testament, publié au CERF en 2011. Une des lignes conductrices de cet auteur, c'est de démontrer que dans le Nouveau Testament, il y a diversité d'approches sur les dieux qu'on nous présente, mais en même temps cohérence. Non. D'une part, nous savons qu'il y en a 4 évangiles, évidemment. Cohérence fondamentale et diversité dans les expressions ou dans les accents, si vous préférez. Autrement dit, unité dans la diversité. Ou si vous préférez dire ça en clé musicale, on pourrait dire une harmonie discordante. C'est harmonique, mais ce n'est pas avec un accord majeur. C'est harmonique, mais discordante. Ainsi, par exemple, pour ce qui relève de l'image de Père, il nous semble que c'est une évidence, l'image de Père, etc. Bon, par exemple, Matthieu, il utilise souvent, Jésus en parlant à ses disciples. Et il dit souvent, votre Père. Autrement dit, c'est une vision des dieux comme père, mais orientée à la relation du chrétien ou des disciples avec Dieu. Bon, là, vous aurez tous les citations, il y a tout un paquet. Et c'est pour encourager la confiance des disciples en Dieu. Il présente une image de Dieu telle que ça vous conduit à avoir confiance en Dieu, en tant que Père. Très bien. Autrement dit, il y a une dimension pastorale très évidente dans la manière dont Matthieu parle des dieux pères. Dans l'évangile selon saint Jean, en revanche, c'est la dimension christologique qui est mise en valeur systématiquement. D'autant plus que c'est encore plus abondante. Les nombres des textes qui parlent des dieux comme père dans l'évangile de saint Jean que dans celui de Matthieu. Il s'agit de mettre en évidence qu'il s'agit, dans tout son évangile, du Fils unique du Père. Donc le Père est vu comme Père du Fils unique Jésus-Christ. Tandis que Matthieu, Dieu en tant que Père, est vu comme le Père à tous, pour nous donner confiance et... Ces deux variantes sont très marquées, énormément claires, mais vous pourrez voir ça avec d'autres nuances chez Paul, ou chez Marc, où Dieu est aussi présenté comme Père. Un autre aspect très intéressant du profil des dieux dans le Nouveau Testament, se dégage quand on regarde les contextes sociaux et politiques des premiers temps du christianisme. Dans le monde romain, le polythéisme était de mise. Là, tous les panthéons romains, ce n'est pas les dieux qui manquent, ni la déesse, évidemment. La question de l'exclusivité d'un dieu par rapport à d'autres ne se posait pas. Tout le monde était le bienvenu, tous les dieux. On pouvait être plus attaché ou plus fidèle à un dieu qu'à l'autre. Bon, on peut être plus ou moins dévot des Lourdes ou de Fatima, très bien, mais enfin, quand même, on n'exclut pas l'autre. Mais, de toute façon, il fallait absolument prendre en compte et vénérer les divinités locales qui étaient les protectrices de la cité, etc. Et ça, c'était quand même incontournable. Ça, on ne pouvait pas... C'était non négociable, comme on dit. Ce qui veut dire que lors des fêtes propres de la divinité locale, il n'était pas question de ne pas y participer. Même si vous étiez de passage... Vous tombez là pendant les fêtes locales du dieu X, vous deviez participer. Sinon, normalement, vous étiez chez des amis, je ne sais pas, et ça c'était une infamie. On ne pouvait pas faire ça. Et encore moins, évidemment, si vous étiez un habitant de cette ville, ne pas participer aux fêtes locales, alors là c'était digne de... ostracisme avancé. La conviction que la protection des divinités était essentielle à la vie harmonieuse et prospère de la cité était un acquis majeur à l'époque. Ceci existait aussi, ce réflexe d'exclusion ou d'exclusivité existait aussi chez les Juifs. Au point que, en trop longtemps, les chrétiens ont été considérés comme une secte parmi les Juifs. Mais bon. Mais la manière dont les chrétiens ont résolu ces problèmes, l'exclusivité par rapport à cette polyvalence des dieux, etc., et le devoir de participer, la manière dont les chrétiens ont résolu ça est quand même ferme, mais plus souple que les juifs. Je vous explique. Je reprends 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 23 à 30. Je vous lis. Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qu'on vend au marché, viande surtout, mange-le sans poser des questions par motif de conscience. Ce qu'un juif n'aurait jamais fait. Enfin bon. Car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'il vous offre sans poser des questions pour motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti et par motif de conscience, les deux. Je parle ici non de votre conscience, mais de la sienne. S'il vous a averti, c'est parce que lui aussi, il sait que. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience si je prends de la nourriture en rendant grâce? Pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. C'est ainsi que moi-même je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient tous sauvés. Voilà. Et ça continue à être actuellement dans notre société extrêmement fréquent. Je me souviens par exemple avec des amis musulmans. Le vin. Je savais qu'effectivement c'était haram, donc pas de vin. Mais une fois, j'avais du champagne. Et la personne qui était avec moi, musulman des souches, comme on dit, a été tentée par les bulles. Et cette personne a goûté, et depuis, est passé au rouge, au blanc, au rosé. Bon. Et je me souviens d'une autre fois, j'étais chez des amis, et ils avaient invité d'autres amis juifs, dont les enfants étaient tels copains à l'école. Bon. Et j'arrive donc chez mes amis, je vois le mari en train de couper du jambon du sud-ouest. Alors, un jambon là, en train de couper le machin, je dis « Bernard, quoi ?» Et à ce moment, la sonnette sonne et les invités juifs arrivent. Alors on se dit, mais voilà, j'étais en train de lui dire que ce n'est pas tout à fait approprié, même si les jambons sont très très bons, mais enfin, oui. Écoutez, nous, quand on va chez des amis, on ne pose pas de questions. Si ils mettent du jambon, on mange du jambon, tout ce que vous voulez. Chez nous, vous n'en aurez pas, ça c'est certain. Mais c'est les autres, ben c'est un peu la même technique que Paul. Enfin, c'est pas ça qui va détériorer ou pas votre relation avec Dieu. Donc. Alors, Paul le dit, donc souplesse et fermeté. Première Corinthiens 10, 23, 30. Mais cette attitude même, avec cette dose de souplesse, pouvait créer des problèmes sérieux. Parce qu'à un moment, il pouvait être tout à fait en situation de devoir dire non. Des problèmes avec sa famille, même. Avec les voisins, avec les collègues de travail, avec les collègues à faire, ou n'importe, enfin bref. Et avec les autorités civiles et politiques. Étant donné que les sacrifices pour la cité étaient vraiment un point incontournable. Mais si vous ne participez pas, vous, c'est un peu comme si vous alliez avec une ceinture d'explosifs à l'opéra en pleine séance. Non, ça ne se passe pas très bien. Donc, la posture chrétienne, comme dit Hurtado, demande une dissonance cognitive, c'est-à-dire une distance du point de vue intellectuel avec le monde romain, et une dissonance sociale qui en est la conséquence, c'est-à-dire parce que cette différenciation, cette distanciation du point de vue social avec les gens de la cité, etc. Dernier point.
Dans la Bible, ils disent, le titre, c'est les idolotites.
Les idolotites, ça c'est... Ça, c'est les gens de gros mots que les traducteurs, quand même, pourraient changer. Oui, mais c'est ce qui a été offert aux idoles. Bon, bien évidemment, quand vous offrez un bœuf au dieu machin, ben, il faut que ce bœuf soit quand même mangé, donc a été vendu au marché. C'est ce qu'il dit Paul. Non, ça, c'est une idolotite. Bon.
Et tout le monde en mangeait, ce bœuf, tout le monde en achetait.
Ah ben, tous ceux qui pouvaient payer, oui. Ah ben, mais c'est-à-dire que si c'est une offrande, ceux qui participaient à ce genre de... Enfin, les membres de ces villes ou de ces machins, ils trouvent ça tout à fait normal.
Oui, mais les chrétiens, non.
Mais les chrétiens, non, avec les réserves que je vous ai dit. C'est un peu comme l'histoire du jambon.
D'accord.
Si vous allez chez quelqu'un, et il vous sort un bœuf bourguignon, qui a été fait avec de la viande, du bœuf offert au dieu machin, vous pourrez critiquer si le bourguignon est bien fait ou pas. Mais a priori, vous n'allez pas créer un scandale pour ça, dit Paul. Mais il doit l'avoir, effectivement, des moments particuliers où vous seriez obligé de dire non. Et vous dites, maintenant ça devient de plus en plus classique, mais il y a quelques années, les gens qui ne mangent pas de la viande, c'était rare. Surtout dans certaines régions de France, comme la Normandie. Alors, quand vous aviez à table quelqu'un qui dit « Ah non, je ne mange pas de viande », il dit « Ah ben écoute, mais moi je n'ai rien d'autre de la viande, plus quelques petits pois et quelques vagues carottes, ah ben, mais ça... » Bon, très bien. Là maintenant, c'est courant. Mais en France, par exemple, il y a très, 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 très peu de restaurants...
Végétarien.
En Grande-Bretagne, par exemple, dans tous les restaurants, tous les pubs, vous en avez des menus végétariens, mais depuis très longtemps. Il n'y a pas que du mauvais chez les Anglais.
Quand même.
Bon.
Alors, concernant la conscience, en fait, dans ce que dit Paul, l'idée, si vous savez que c'est de la viande sacrifiée, vous ne prenez pas. Et en même temps, vous le rappeliez, il dit que c'est pas pour votre conscience, c'est pour la conscience, c'est pour ne pas être un scandale. Pour les...
voilà. Si l'autre vous dit, écoute, je te signale que c'est de la viande du... du bœuf offert à ce moment-là, il te prévient d'autant plus, il pense lui aussi que tu n'as pas mangé. C'est pour ça qu'il te prévient.
Mais si le chrétien il dit bon, moi je ne veux pas scandaliser qui que ce soit, ni d'autres chrétiens, ni d'autres païens, ni des païens, moi je mange, mais pour moi. Le sacrifice n'est rien. Ce sacrifice n'est rien.
Oui, oui.
Je mange pour la gloire de Dieu.
Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas dire à l'autre « Je mange parce que votre truc, c'est de la crotte. »
Non, mais je ne le dis pas.
Oui, ah ben oui.
Je suis pas obligé. Je peux parfaitement manger.
C'est vrai.
Dans ma conscience.
Oh, tout à fait, oui.
Pas de problème.
Oui, mais on est très souvent confronté à ces genres de choses. Bon, par exemple, là, maintenant, tout ça a disparu, mais avec toutes les histoires de abstinence et du jeûne, etc. Je vous rappelle, il y a une casuistique absolument délirante dans mon temps.
Maintenant, on ne fait plus trop.
Maintenant, si on veut faire quelque chose, on peut le faire sans forcément... Le vendredi saint, c'était abstinence, donc pas de viande. Non. Chez moi, on n'était pas riche, loin de là, mais poisson. Mais on prenait à chaque fois, ma mère en plus gardait les sous des semaines à l'avance, pour le repas du vendredi saint, qui était vraiment le poisson. Je sais pas si vous connaissez, mais les puelles. Pas s'il y a quelqu'un qui connaît. Oui. Bon. Ce sont les alevins d'anguilles. Actuellement, ça a des prix absolument astronomiques. J'ai lu l'autre jour, c'est 4 000 euros le kilo. Actuellement.
Je
de mon temps, c'était pas ça. Mais enfin, pas ça. Mais c'était quand même bon. On accomplit la loi de la viande. Enfin, de.
Pas le caviar aussi, à la limite. Hein.
Mais pas viande. Mais on était en paix. Et je me souviens, le Vendredi Saint, par exemple, chez nous, il y avait la procession du Vendredi Saint, c'était un jour de jeûne. Très bien. Et après, la mairie avait un dîner. Évidemment, ils avaient fait jeûne toute la journée, ils avaient mangé quelque chose pour le petit-déj, puis après, rien, et la procession, et en plus, les sermons des capucins qu'il fallait se taper après. Et après, un dîner. Un dîner avec du poisson. De la morue à la langouste. Et là, en plus, vous pouvez... Bon, moi, je ne suis jamais allé, parce que j'étais encore trop jeune. Mais les prêtres y allaient. Alors, ben, vous aviez fait jeûne, mais là, vous pouvez en manger, mais vraiment, 3 kilos. C'est ce qu'on appelle le détournement du sens. Bon. Donc, dernier point. Les profils dits Dieu du Nouveau Testament est en contraste, en continuité, en rupture par rapport au Dieu de l'Ancien Testament. Et ça, c'est très bien expliqué dans l'Épître aux Hébreux encore. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes, etc. Ce Fils, resplendissement de sa gloire, etc. Bon, après avoir accompli la purification de péché, il est assis à la droite de la majesté, dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que l'héritier des nombres. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux. Donc, mais ça, le monde juif ne pouvait absolument pas l'entendre. Ni à l'imparfait, ni au présent, ils ne peuvent pas entendre ça. En même temps, c'est les dieux, on dit là très bien. La continuité, c'est le même qui a parlé jadis à nos pères et aux prophètes, mais qui a parlé dernièrement par Jésus-Christ. Ça, c'est la posture chrétienne. Et les juifs disent, nos pères, d'accord, pour le reste, pas du tout. Donc, il y avait quand même un profil du Dieu de l'Ancien Testament, qui était particulière et par laquelle le chrétien était en continuité, mais en rupture aussi par rapport à l'Ancien Testament. Dernier, cette fois c'est la bonne. Dernier point de ce profil du Dieu de l'Ancien Testament, c'est que le Nouveau Testament présente Jésus comme le plus grand acte de rédemption et de révélation du Dieu de l'Ancien Testament. Et comme dit Hurtado, l'Ancien Testament est d'une certaine façon la matrice du Nouveau. Mais c'est nouveau. Prend une figure tout à fait particulière, c'est la plus grande manifestation des dieux de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Bon, je m'arrête là et on reprend tout à l'heure. Ouais.
Elle m'a dit c'est là. Hein.